3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Programme double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. William James Murray est un acteur, un écrivain, un producteur, ainsi qu'un réalisateur de films. Né le 21 septembre 1950 à Evanston, en Illinois, Murray et ses 8 frères et sœurs grandiront dans une famille catholique irlandaise. 3 de ses frères et sœurs, John Murray, Joel Murray et Brian Doyle Murray, sont également acteurs, alors qu'une de ses sœurs, Nancy, est une religieuse dominicaine d'Adrian dans le Michigan. Au cours de son adolescence, William travaillera comme caddie de golf pour financer ses études au lycée jésuite, sera le chanteur principal d'un groupe rock appelé The Dutch Masters et s'impliquera même au niveau théâtral dans des pièces réalisées au lycée ainsi qu'à l'intérieur d'un théâtre communautaire. Après avoir obtenu son diplôme de la Loyola Academy, Murray fréquentera l'Université Regis de Denver, au Colorado, où il suivra des cours prémédicaux. Cependant, il abandonnera rapidement ses études et retournera dans l'Illinois. C'est à cet endroit que le jour de son 20e anniversaire, Murray sera arrêté par la police à l'aéroport O'Hare de Chicago après avoir tenté de faire passer en contrebande 10 livres de cannabis qu'il aurait eu l'intention de revendre. Il sera alors reconnu coupable et condamné à une probation. Après une invitation de son frère aîné, Brian, Murray fera ses débuts à The Second City, à Chicago, une troupe de comédiens d'improvisation. En 1974, il déménagera à New York et sera alors recruté par l'acteur John Belushi comme acteur vedette du National Lampoon's Radio Hour. Ce sera quelque temps après que cela le conduira à son premier rôle à la télévision en tant que membre de la distribution de l'émission de variété du poste américain ABC, Saturday Night Live. De là, il participera au programme jusqu'en 1980. C'est à ce moment qu'il prendra le nom de Bill. C'est en 1979 que l'acteur décrochera son tout premier rôle au cinéma dans la comédie Meatballs, ce qui lui permettra par la suite de collaborer avec le scénariste-réalisateur Harold Ramis sur une série de films à succès, dont Caddyshack en 1980, Stripes en 1981, Tootsie en 1982 et surtout Ghostbusters en 1984. Je vous présente donc dans cette édition de Programme Double les premiers pas de l'acteur de comédie Bill Murray dans le domaine cinématographique, alors que je vous parlerai de deux des premiers longs-métrages dans lesquels il apparaîtra, soit Meatballs, suivi de la comédie Stripes, les deux films mis en scène par le réalisateur Ivan Reitman et écrits par le scénariste Harold Ramis, deux hommes avec qui Murray travaillera quelques années plus tard sur la production qui lui donnera le stardom tant recherché, soit Ghostbusters. Donc, préparez-vous à prendre des vacances totalement dingues dans un camp d'été avant de vous embarquer dans l'armée avec une bande de misfits à l'intérieur de cette édition amusante de Programme Double.
No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome. Save your battery and your disposition. When it rains, you can still enjoy the movie with a Drizzle Guard rain visor. Simply press suction cups to the windshield as shown in the detail on your instruction sheet. Drizzle Guards are on sale now at the concession stand.
Refresh yourself. It's intermission time. The concession stand is open and ready to serve you.
So, let's be honest. Streaming is taking over. Platforms like Netflix, Hulu, and Amazon have caused an explosion in the market. But some of us can't help but ask, why? Where's the experience? What about that movie theater drink, candy, and popcorn combo? And then, the moment you've been waiting for, the movie starts. Or does it? The sad truth is, movie theaters are dying. So what can we do? One, buy a ticket. Or buy two. Ditch your TV streaming options at home and hit the theater. Because together, we can keep the movie theater experience alive.
The show is about to start. Thank you for your cooperation. Enjoy the show, and please come back and visit us again. And now, it's showtime.
I'm your head counselor. I'm
hoping to make your summer camp experience the best available in this price range.
For one summer, the parents of 300 children...
You must be the short, depressed kid that we ordered.
Come on inside, Frankenstein. I'll buy a cocktail.
...are putting their faith...
These are the camp rules. Be in here if you want to check these out a little bit later.
...in one man.
Let the game begin!
There's no way we're going to beat this team.
What are we going to do?
We're going to lose. But we can lose with some self-respect.
The leg.
Okay.
Yeah, for now. But if you don't win, we cut it off.
But the real excitement, of course, is going to come at the end of the summer, during Sexual Awareness Week. We import 200 hookers from around the world, and each camper, armed with only a thermos of coffee and $2,000 cash, tries to visit as many countries as he can.
Oh, my God. Take me.
And then the winner, of course, is named King of Sexual Awareness Week.
Bill Murray. Meatballs.
Really?
Meatballs, ou Arrête de ramer, t'es sur le sable, est une comédie qui a été distribuée par les studios Paramount Pictures le 29 juin 1979. Ce film canadien d'une durée de 94 minutes a coûté 1,6 million de dollars à produire et amassera plus de 70 millions de dollars à travers le monde entier. Sur le poste de réalisateur, on y retrouve Ivan Reitman, ce réalisateur tchécoslovaque qui a réalisé les films Ghostbusters, Legal Eagles, Dave et Junior. Au niveau du poste de producteur, on y retrouve Daniel Goldberg, ce producteur canadien qui a produit les films Space Jam, Evolution et la trilogie de The Hangover. Et au niveau de la scénarisation, on y retrouve les scénaristes américains Len Blum, lui qui avait travaillé sur Space Hunter, Adventures in the Forbidden Zone et Private Parts, Harold Ramis, ce scénariste américain qui a travaillé sur Caddyshack 1 et 2, Analyze This, Analyze That et Groundhog Day, Janice Allen, cette scénariste américaine qui a travaillé sur le scénario de Double Negative, et finalement, le scénariste canadien Daniel Goldberg, lui qui a travaillé sur les films Heavy Metal, Stripes et Feds. Dans la distribution, on y retrouve Bill Murray, Harvey Atkin, Kate Lynch, Ross Banham, Christine DeBell, Sarah Torgov, Jack Blum, Keith Knight, Matt Craven et Chris Makepeace. Le chef moniteur d'une colonie de vacances s'acquitte de sa tâche avec désinvolture. Il entreprend un nouvel été conscient des faiblesses de son équipe et des carences de l'administration de la colonie. Ce lien d'amitié avec un jeune garçon ayant de la difficulté à s'intégrer avec les autres jeunes du camp d'été, l'homme cherchera à mener les siens à la victoire à l'occasion de simili-olympiades annuelles avec une colonie voisine pour enfants riches. En 1975, le réalisateur-producteur canadien Ivan Reitman produisait une émission off-Broadway intitulée « The National Lampoon Show » qui mettait alors en vedette les acteurs John Belushi, Brian Doyle, Gina Radner, Harold Ramis et un certain Bill Murray. Désirant réaliser un long-métrage de comédie, il communiquera alors avec l'équipe de production de National Lampoon pour travailler sur un projet qui deviendra National Lampoon's Animal House. Malheureusement, lorsque viendra le temps de choisir un réalisateur pour le projet, Reitman sera écarté, le studio qui produisait le film pensant que ce dernier n'avait pas assez d'expérience pour s'occuper de la mise en scène, et ce, même s'il avait développé l'idée à partir de sa création. Suite à cette décision, le réalisateur communiquera avec le scénariste-producteur Len Blum en mars 1978 et lui proposera alors un projet qu'il avait en tête, soit un film sur une colonie de vacances qui pourrait être tourné dès l'été de cette même année. Les deux hommes travailleront alors sur la première ébauche du scénario pendant plus d'un mois. Par la suite, afin d'améliorer cette version, Reitman contactera Harold Ramis, qui était relativement inconnu à l'époque. Ramis obtiendra 1 700 $ pour son travail, montant dont il avait besoin pour s'acheter des meubles pour son nouvel appartement. Une fois le scénario complété, Reitman cherchera son acteur vedette. Dès le départ, le jeune homme de 32 ans ne désirait qu'un seul acteur pour le rôle principal, soit Bill Murray. Contacté par Reitman, Murray, alors âgé de 29 ans, refusera le rôle, n'étant point intéressé par le scénario. Que cela ne tienne, le réalisateur ne cessera d'envoyer des copies de script à divers clubs de baseball de ligue mineure où se trouvait l'acteur durant l'été, prenant une pause de Saturday Night Live. Finalement, Murray acceptera le rôle, une décision qui changera alors le cours de son existence. Par la suite, le producteur Daniel Goldberg, qui avait produit le tout premier long-métrage de Reitman en 1973, soit Cannibal Girls, embarquera dans le projet. Désirant filmer à l'intérieur d'un véritable camp d'été, les deux hommes feront le tour des divers camps partout au Canada. Ce sera finalement le camp White Pine, qui se trouve à Haliburton, en Ontario, qui acceptera de participer au tournage, acceptant même que les campeurs sur place soient utilisés comme figurants. Le tournage devait débuter en août, alors que les campeurs seraient encore sur place, ces derniers servant alors d'extra à peu de frais. Pour le reste de la distribution, la production désirait embaucher principalement des inconnus afin de sauver le plus d'argent possible sur le budget de tournage. Des affiches seront alors placées à divers endroits de la petite localité située à proximité, les auditions ayant lieu dans une salle de cinéma de cet emplacement pendant plus de 3 jours, durant laquelle plus d'une centaine d'adolescents se présenteront. Le tournage débutera le 7 août 1978 sous le titre de travail « Summer Camp ». Cependant, la production se retrouvera dans un sérieux problème, et ce, dès le début. En effet, bien que Bill Murray avait accepté de faire le film, ce dernier ne s'était pas pointé sur le plateau de tournage, Danny Croyd étant alors l'acteur en stand-by au cas où Murray ne se présenterait pas. Mais finalement, Bill arrivera au camp d'été portant une chemise hawaïenne et un short rouge avec au poignet un réveil matin. Dès son arrivée, Reitman lui tendra une copie du scénario, Murray le regardera rapidement, puis jettera théâtralement celui-ci dans une poubelle à proximité, le tout arrivant à peine quelques minutes avant que ne soit tournée sa toute première scène. Murray improvisera alors ses dialogues et toute l'équipe de tournage s'exclamera de rire, la séquence ayant été accomplie en une seule prise. La majorité de la distribution en était à sa toute première expérience sur un plateau de tournage, ceux-ci étant logés à l'intérieur du camp White Pine. Cela permettra à tous les membres de l'équipe, acteurs et techniciens, de se lier d'amitié sur cette production qui ressemblait plus à des vacances estivales qu'à un tournage de film. Même Bill Murray invitait quelquefois les membres de l'équipe dans sa cabine pour une bonne partie de poker avec au menu bière, tequila et peut-être un peu de marijuana. La soirée se terminait par la suite à bord d'un bateau appartenant à l'acteur pour une croisière nocturne impromptue sur le lac, bateau qui coulera lors du tout premier party. Le jeune Chris Makepeace, qui faisait également ses débuts officiels sur le grand écran, venait tout juste de commencer à traverser sa crise de puberté et arrivera sur le plateau de tournage avec une moustache que Murray s'empressera alors de raser après avoir amené l'acteur dans une salle de bain, et ce, dès son arrivée. Le tournage durera jusqu'au 13 septembre et se transportera également à Lindsay en Ontario et à Montréal au Québec. À cause de la date tardive, les séquences tournées dans le lac seront difficiles à réaliser, l'eau étant devenue glaciale. De plus, la situation avec les quelques 400 campeurs deviendra quelque peu tendue durant le tournage, ces derniers étant très excités de leur participation au départ, mais comprendront que ce tournage n'allait pas être amusant pour eux, certains perdant quelques journées de leurs vacances à attendre que l'équipe de production soit prête à tourner les diverses scènes dans lesquelles ils devaient figurer. Après la conclusion du tournage de base, le film sera rapidement monté et une séance de prévisionnement par un public cible sera rapidement organisée. Celui-ci sera alors mal reçu, forçant les scénaristes à créer de nouvelles séquences entre le personnage de Bill Murray et celui de Chris Makepeace. Plusieurs plans seront donc tournés après la fin du tournage initial. Ces séquences comprenaient des scènes entre Woody et Tripper à la gare routière et la fameuse partie de Blackjack pour des cacahuètes. Une autre séquence ajoutée sera celle où Tripper doit donner un speech de ralliement. C'est Murray lui-même qui créera le texte philosophique de la séquence « It just doesn't matter », se présentant sur le plateau de tournage avec quelques feuilles de papier et improvisera alors une grande partie de la dite scène. Redman tournera alors la séquence de manière à ce que les caméras captent la véritable réaction des enfants et des moniteurs. Le reste deviendra de l'histoire, la séquence ne prenant que 2 ou 3 prises à réaliser. Meatballs marquera le début sur le grand écran des acteurs Matt Craven, Kate Lynch, Keith Knight, Ross Benham et le jeune Jason Redman, fils du réalisateur Ivan Redman. Jason Redman deviendra plus tard réalisateur et producteur, notamment sur le film Ghostbusters Afterlife. Le jeune homme n'était âgé au moment de la production de Meatballs que de 6 mois. La participation musicale du long-métrage sera écrite et réalisée par Elmer Bernstein et plusieurs chanteurs contribueront également à la bande originale, dont Mary McGregor, David Nocton et Rick Dees and His Cast of Idiots, qui interpréteront le thème principal de Meatballs. Les chansons « Good Friend » et « Making It » se retrouveront dans les charts Pop Billboard de 1979. La chanson du générique « Are You Ready for the Summer » sera, quant à elle, interprétée par le Camp North Stars Kids Chorus. Pour l'avant-première, celle-ci sera faite à 22h le soir, alors que le cinéma où elle avait lieu était plein à craquer. À sa sortie officielle, le film connaîtra un succès commercial surprise, amassant plus de 17,9 millions de dollars pour ses 17 premiers jours d'exploitation. Meatballs sera le tout premier film canadien à enregistrer plus de 2,5 millions de dollars au Canada et deviendra également le film le plus lucratif dans le pays avec 4,2 millions de dollars, rapportant ainsi la bobine d'or aux Genie Awards de 1980. Meatballs deviendra également à cette époque le film canadien le plus rentable sur le sol américain, amassant un total de plus de 43 millions de dollars, et ce seulement en Amérique du Nord. Meatballs sera suivi de 3 autres suites, soit Meatballs Part 2 en 84, Meatballs 3 Summer Job en 86 et finalement Meatballs 4 en 1992. Aucune de ces suites n'impliquera Ivan Reitman, Harold Ramis ou Bill Murray, bien que seul Meatballs numéro 3 aura un lien avec l'histoire et les personnages du film original, ce long-métrage mettant en vedette l'acteur Patrick Dempsey dans le rôle de Rudy Gerner. Du côté des points forts, eh bien, sans être d'une qualité marquante, le réalisateur réussit ici à nous donner un résultat fort sympathique et chaleureux avec un groupe de personnages des plus ridicules, mais qui deviennent attachants grâce à une chimie intéressante entre les comédiens. Bill Murray est ici en pleine forme et nous montre ses talents de comique qui feront de lui une vedette incontournable d'Hollywood, ce dernier étant quand même soutenu par une assez bonne distribution. le film ne s'attarde pas à nous présenter les difficultés existentielles des personnes impliquées dans l'histoire et n'est réalisé que pour faire passer un bon moment à son auditoire, donnant un bon mélange entre les scènes de stupidité adolescente dont on peut s'attendre avec un tel produit et certaines scènes mélodramatiques, ce qui donne un certain charme hypnotisant au long métrage. La musique de Bernstein ainsi que les chansons choisies donnent un excellent rythme au film, rythme qui ne ralentit jamais et qui nous donne au final le goût de se rendre nous-mêmes dans un camp d'été. Pour les amateurs de tennis, ce film vous présente sans contredit l'une des pires parties de tennis de toute l'histoire d'Hollywood et probablement de l'humanité. Du côté des points faibles, cependant, Meatballs est une comédie sans grande surprise, remplie de blagues faciles et immatures d'adolescents qui n'ont pas encore grandi. Le scénario quelque peu épisodique est rempli d'intrigues simplistes et de dialogues nullement recherchés. L'humour est quelquefois gros et enfantin et l'intrigue est très prévisible, ce qui n'enlève en rien au charme de la production. Cependant, un point important, lorsque l'on suit les moniteurs du camp d'été qui vivent différents moments d'intrigue et de passion, on est porté à se demander qui s'occupe des enfants à ce moment, ces derniers semblant être alors complètement abandonnés dans la colonie de vacances. Du côté musical, eh bien, c'est le compositeur américain Elmer Bernstein, lui qui avait réalisé les trames sonores des films The Magnificent Seven en 1960, To Kill a Mockingbird, Slapshot et Airplane. Je vous présente ici un extrait musical du film Meatballs.
Now, intermission. Refreshment time.
Men, there's a drive-in movie full of juicy people. Wow! It's a trap! Help! It's Pick! We've had it, men.
A pleasant aroma for you, but not for mosquitoes. Pick is easy to use. Light it and forget it. Pick's aroma keeps mosquitoes, gnats, and sand flies away. Pick is the best protection for barbecues, fishing and camping trips, or just relaxing in the yard.
So if you don't want our company ever anywhere, just like Pick and see what I mean? Bye!
Pick is on sale at the refreshment stand now.
On foreign shores or at home, where you go, by your wings you'll be known.
Yes, by these wings you'll be known. You'll be recognized throughout the world as one of America's Knights of the Sky, an Air Force pilot. If you are single, between 19 and 26 and a half, you can join this chosen few. You'll train as an aviation cadet and graduate a lieutenant, earning more than $5,000 a year. Win silver wings to a golden future. Fly with the aviation cadets.
Making a trail in the sky, riding the gale way up high. We fly the jets on the Air Force team, the Sky Cadets. Wings are gleam, sign up today. Go the Air Force way, go up with the Aviation Cadets.
See your nearest Air Force recruiter now.
Golden pure creamery butter, rich, flavorful, satisfying. That's what it takes for the finest buttered popcorn, and that's what we use. See for yourself why there's no Showtime treat to equal the crisp, delicious flavor of hot popcorn that's bathed in real melted butter. It's at the concession stand now.
See your next movie completely free. And now, on with the show.
Get more out of life. Go out to a movie.
You're a bum. And that's all you'll ever be. A bum.
Are you stuck in a dead-end job? Personal problems got you down.
You can't go. All the plants are gonna die.
I've lost my job, my apartment, my car, and my girlfriend.
Well, the Army can turn your life around.
Before I knew it, she was walking next to me,
singing do what did it, did it, dum, did it, do.
Join a whole new breed of professionals.
Oh my God, my mama!
Learn what it's like to feel like a man. Get your body into incredible shape.
Those muscles.
Do them!
Master important career skills.
What are you going to do with that?
This. And this.
And represent your country in foreign lands.
Chicago. Bang, bang.
So if you're a man who likes to take charge of your own life.
You're different. You're weird. You're a mutant. You're a killer. You're a trained killer. You're a lean, mean, fighting machine. I'll do it!
And this looks like your kind of challenge.
So am I to understand that you men completed your training on your own?
That's the fact, Jack!
That's the fact, Jack!
Oh, huh?
Join the wackiest group that ever put on a uniform.
Gentlemen, this is the EM-50 Urban Assault Vehicle.
And ride with them as they blunder across borders.
Right, man, always get this thing moving. Come on.
You're dangerous, you know that?
All right,
yeah. Steady, steady, steady.
We got one heavily armed recreational vehicle here, Ben.
Oh, this is interesting.
Boom, chaka-laka-laka, boom, chaka-laka-laka, boom!
Stripes, ou Les Bleus, est une comédie qui a été distribuée par les studios Columbia Pictures le 26 juin 1981. Ce film américain d'une durée de 106 minutes a coûté plus de 10 millions de dollars à produire et a amassé plus de 85,3 millions de dollars seulement sur le continent nord-américain. Au poste de réalisateur, on y retrouve de nouveau le metteur en scène tchécoslovaque Ivan Reitman, lui qui avait réalisé les films My Super Ex-Girlfriend, Evolution et Draft Day. Au niveau du poste de producteur, on y retrouve le producteur tchécoslovaque Ivan Reitman, lui qui avait produit les films Animal House, Heavy Metal et Hitchcock, accompagné de son comparse, le producteur canadien Dan Goldberg, lui qui avait travaillé sur School for Scoundrels, Due Date et Space Jam. Au niveau de la scénarisation, on y retrouve le scénariste américain Harold Ramis, lui qui a travaillé sur les scénarios des films Bedazzle, la version de 2000, ainsi que Armed and Dangerous, ainsi que les scénaristes canadiens Len Blum, lui qui a travaillé sur Space Hunter Adventure in the Forbidden Zone et la version de 2006 de The Pink Panther, ainsi que Dan Goldberg, ce scénariste canadien qui a travaillé sur les scénarios de Cannibal Girls, Heavy Metal, Meatballs et Feds. Au niveau de la distribution, on y retrouve l'acteur Bill Murray, Harold Ramis, Warren Oates, P.G. Souls, Sean Young, John Candy, John LaRoquette, George Reynolds, Joe Flaherty et Bill Paxton. Un chauffeur de taxi, excédé par la vie urbaine, décide de s'engager dans l'armée et convainc son meilleur ami de l'accompagner dans cette aventure. Suite à un entraînement des plus difficiles, les deux hommes et leur bataillon d'inadaptés se retrouvent alors en Italie dans une dangereuse mission en territoire communiste. C'est alors qu'il était en route vers la première de Meatballs que le réalisateur-producteur Ivan Reitman aura l'idée de son prochain film, une histoire où les personnages de Cheech et Chong rejoindraient l'armée. Il présentera alors le concept de Stripes à la compagnie de production et de distribution Paramount Pictures qui donnera immédiatement le feu vert à l'écriture du scénario. Cheech et Chong était un duo comique composé des acteurs Cheech Marin et Tommy Chong qui connaissaient un succès commercial et culturel depuis les années 1970 avec leur routine de stand-up, leurs enregistrements en studio et leur long métrage basé sur l'air hippie et l'amour libre, en particulier avec le mouvement de drogue et de contre-culture créé par leur amour pour le cannabis. Ce sera alors les scénaristes Len Blum et Dan Goldberg qui écriront le script à Toronto et le liront par la suite au téléphone à Reitman, ce dernier résidant maintenant à Los Angeles. Reitman présentera le concept à l'agent de Cheech et Chong qui trouvera le scénario très drôle et très intéressant. Cependant, le duo comique voulait un contrôle créatif complet, ce qui n'était pas envisageable du côté de Reitman. C'est alors que le réalisateur fera la suggestion à Goldberg de retravailler les deux personnages principaux au niveau du scénario afin que ceux-ci conviennent beaucoup plus aux acteurs Bill Murray et Harold Ramis, estimant que s'ils pouvaient intéresser Ramis à participer à la production et le laisser adapter quelque peu le scénario, qu'il serait alors possible pour ce dernier de convaincre Murray de participer également à ce film. Cependant, suite à la non-participation du duo Cheech et Chong, Paramount Pictures se retirera du projet, forçant alors Reitman à se rendre dans les studios de la Columbia Pictures, qui, eux, accepteront tout de suite de produire le nouveau concept. Harold Ramis était surtout reconnu à Hollywood pour ses talents de scénariste en comédie, ce dernier ayant co-écrit les films Animal House, Meatballs et Caddyshack. Malheureusement pour Reitman, Ramis était relativement inconnu à ce moment en tant qu'acteur de cinéma, ses expériences de comédien ne se résumant qu'à sa participation à la comédie télévisée de fin de soirée Second City Television qu'il avait quittée quelques années plus tôt. Les exécutifs de la Columbia Pictures n'aimeront pas son audition. Découvrant que le studio ne voulait pas de lui et étant plus à l'aise avec l'écriture qu'avec le jeu d'acteur, Ramis s'organisera pour faire auditionner l'acteur Dennis Quaid pour le rôle qu'il devait avoir, ce dernier étant le mari de l'actrice P.G. Souls à l'époque, cette dernière ayant déjà obtenu le rôle de Stella Hanson sur la production. Mais c'est à ce moment qu'interviendra l'acteur Bill Murray, qui avait accepté de participer à la production et insistera alors sur le fait qu'il ne travaillerait sur cette production qu'avec la participation de Remus à ses côtés comme acteur. Les exécutifs n'auront donc pas le choix et Remus et Murray seront donc signés. De plus, un budget de plus de 9 millions de dollars sera entendu avec les studios. La production pouvait donc maintenant débuter. Ce sera la directrice de casting Karen Rhea qui sera embauchée pour aider Redman à trouver sa distribution. L'actrice Kim Basinger acceptera de jouer le personnage de Stella, mais son agent exigera alors beaucoup trop d'argent, forçant le retrait de celle-ci du projet. C'est à ce moment que sera embauchée l'actrice P.G. Souls, que l'on avait vue 3 ans auparavant dans le drame d'horreur de John Carpenter, Halloween. Ayant été aperçu sur scène, le comédien Conrad Dunn se verra demander d'auditionner pour le personnage de Francis Psycho Sawyer à New York. Ce dernier remportera haut la main le rôle. Pour l'acteur John Candy, ce dernier était un ami proche du producteur Dan Goldberg qui parlera du comédien canadien à Ivan Reitman, le forçant presque à l'embaucher pour le film. C'est pour cette raison que Candy n'aura pas à auditionner et qu'il obtiendra alors le rôle de Dewey Augsburger. Pour l'acteur Warren Oates, Reitman était un fan des westerns dans lequel Oates avait eu un rôle et le jeune réalisateur désirait quelqu'un de fort que tout le monde respecterait afin de contrôler le peloton d'inadaptés du long-métrage. Stripes marquera un moment important de la carrière sur le grand écran des acteurs et actrices John Deal, Sean Young, John Larroquette, Timothy Busfield ainsi que George Reynolds, qui héritera ici des répliques les plus comiques se trouvant dans le scénario original conçu à l'époque pour le duo Cheech et Chong. Avant le début du tournage, Reitman embauchera le chorégraphe Ron Forella, qui n'avait jamais créé de séquence d'exercice auparavant, afin que ce dernier puisse planifier soigneusement la séquence de remise des diplômes. Les acteurs s'entraîneront et répéteront pendant plus de 2 semaines en faisant de vrais exercices parce que Reitman voulait qu'ils deviennent familiers avec le maniement des armes à feu comme de véritables soldats. Bill Murray et P.G. Souls s'entraîneront quant à eux pendant plus de 3 jours dans un véritable camp militaire, ces derniers désirant à l'origine se lever tous les matins à 5 heures afin de courir et de s'exercer avec les soldats de l'emplacement et ce pendant plus de 2 semaines. Ils reviendront très rapidement sur leur décision. Lors de la séquence où les acteurs devaient se promener en peloton, ceux-ci devaient chanter la chanson « Dua Didi Didi ». Mais seuls John Candy et Conrad Dunn connaissaient les paroles et les deux hommes furent obligés alors d'enseigner celle-ci au reste du groupe. Remus fera la réécriture du scénario de Blum et Goldberg. Par la suite, Reitman, qui espérait tourner sur une véritable base militaire, mais qui ne se faisait point d'espoir que cela ne se réalise, présentera le scénario au département de la Défense. À sa grande surprise, les hauts dirigeants aimeront le scénario à un point tel qu'ils permettront à Reitman et son équipe de tourner à Fort Knox, d'avoir une tonne d'accès sur la base et à ses équipements, et de pouvoir en plus utiliser de véritables militaires pour jouer le rôle de figurant, et ce, gratuitement. Ce sera un bon investissement de la part du ministère de la Défense américaine qui verra alors son nombre de recrutements augmenter de plus de 10% suite à la sortie du long-métrage. Après avoir vu le début de la production être retardé à cause d'une grève de la Screen Actors Guild, le tournage débutera finalement le 17 novembre 1980 dans le Kentucky avant de se déplacer en Californie en décembre. La photographie principale se terminera le 29 janvier 1981 au studio Burbanks à Los Angeles. Toutes les scènes se passant en Tchécoslovaquie seront tournées dans la ville de Clermont, alors que les autres séquences extérieures seront tournées à Louisville, les deux villes se trouvant au Kentucky. Durant ce calendrier de tournage de plus de 42 jours, qui dépassera son calendrier de production ainsi que son budget de plus de 1 million de dollars, Stripes aura, à travers chacune de ses séquences, un élément d'improvisation dû en grande partie aux acteurs Murray et Remus. Une grande partie de la scène de la lutte dans la boue sera alors inventée sur place par Ivan Reitman et John Candy. Quant à la scène de la spacule dans la cuisine de la maison du général, celle-ci sera tournée à 3 heures du matin après que les acteurs et l'équipe aient été debout toute la journée. Murray improvisera la séquence et l'actrice P.G. Souls réagira naturellement à tout ce qu'il dira et fera. Dans la scène où les recrues reçoivent leur coupe de cheveux initiale, le réalisateur n'a jamais annoncé aux acteurs qu'ils auraient une véritable coupe faite par de véritables barbiers militaires. Le jour où sera tournée la dite séquence, Redman alignera tous ses acteurs et tournera les différentes scènes pour obtenir leur véritable réaction. L'acteur John Candy deviendra alors déprimé durant son tournage, utilisant cette émotion et ramassant dans ses mains ses cheveux coupés quand il sort du salon de coiffure. Étant donné que Bill Murray et Harold Ramis étaient à ce moment-là des noms plus importants que le reste de la distribution, ils devaient se couper les cheveux plus courts, mais n'auront pas à se raser la tête en entier. Pendant le tournage, l'acteur Warren Oates adorait raconter des histoires sur son travail sur des productions telles que The Wild Bunch. Durant le tournage de l'une des scènes de course à obstacles, Redman dira aux acteurs d'attraper Oates et de le traîner dans la boue sans en parler à l'acteur vétéran. Le tout afin de voir ce qui arriverait et ainsi obtenir une véritable réaction de ce dernier. Malheureusement, dans le tournage de la séquence, une dent de l'acteur s'ébréchera, mettant le comédien en colère contre le réalisateur. Suite à cet accrochage entre les deux hommes, et pour terminer la séquence, Oates insistera qu'on filme l'autre côté de son visage pour faire une continuité, et lorsque la scène sera filmée, celui-ci se rendra alors chez le dentiste afin de réparer sa dent brisée. Un autre accident surviendra lorsque l'acteur John Larroquette se cassera le nez durant une scène où il découvre que le véhicule de l'armée M50 ait été volé, l'accident se produisant après qu'il ait heurté accidentellement une porte avec son visage. Suite à la fin du tournage, certaines séquences seront enlevées de la séquence finale. Ce sera le cas de cette scène de plus de 9 minutes dans laquelle les personnages de John et de Russell prendront de la drogue et partiront par la suite en mission pour combattre des rebelles dans la jungle colombienne. Une autre séquence sera coupée au montage, soit celle durant laquelle Cruiser retire une goupille d'une grenade et compte trop lentement avant de perdre complètement le compte, forçant alors Holka de l'attraper par la main afin de lui sauver la vie. D'ailleurs, le personnage de Holka devait mourir à l'origine, sa chute de la haute plateforme devant être fatale. Mais le personnage et l'acteur étaient tellement appréciés durant la production qu'il sera demandé à Remus de retravailler cette partie du scénario et de finalement laisser en vie le personnage. Stripes fut un véritable succès, amassant plus de 1,9 million de dollars le jour de son ouverture, la comédie étant diffusée dans plus de 1072 écrans en Amérique du Nord. Après son premier week-end, le long-métrage avait amassé plus de 6,1 millions de dollars et terminera sa présence en salle avec un montant total de 85 millions de dollars seulement en Amérique du Nord, ce qui le placera en quatrième position du box-office nord-américain de 1981, tout juste en arrière de Raiders of the Lost Ark, Superman 2 et la comédie 9 to 5. L'acteur Warren Oates mourra d'une crise cardiaque moins d'un an après la sortie de Stripes. Il n'était âgé que de 53 ans. Pour le comédien John Candy, celui-ci décédera également d'une crise cardiaque, l'acteur mourant dans son sommeil lors du tournage de la comédie Wagon Heist en 1994. Il n'était âgé que de 43 ans. Le compositeur Elmer Bernstein, qui réalisa la musique des films Meatballs et Stripes, décédera d'un cancer le 18 août 2004 à l'âge de 82 ans dans une résidence d'O.J. en Californie. En mai 2010, l'acteur, scénariste et réalisateur Harold Ramis contractera une infection qui a entraîné des complications dont il décédera le 24 février 2014 à son domicile de la rive nord de Chicago à l'âge de 69 ans. Finalement, pour le producteur et réalisateur Ivan Reitman, celui-ci décédera dans son sommeil à son domicile de Montecito, en Californie, le 12 février 2022, à l'âge de 75 ans. Du côté des points forts, eh bien, l'attraction principale de Stripes est certainement le plaisir de voir travailler cette incroyable distribution comprenant plusieurs des gros noms de l'époque tels que Murray, Oates, Candy, Larroquette et Reynolds. Si vous désirez voir à quoi ressemble de véritables losers, ce film est véritablement pour vous. notamment grâce encore une fois à une excellente prestation de Bill Murray dans le rôle principal, ce dernier étant cette fois-ci soutenu par une distribution tout à fait incroyable. Le segment du peloton durant la remise des Oscars est bien chorégraphié, étant le seul moment du long métrage où le spectateur a la chance de voir que notre troupe de misfits n'est peut-être pas si imbécile que ça. Mais du côté des points faibles, bien, malheureusement, Ivan Reitman n'est pas capable de reproduire ici la magie de Meatballs et le film sombre quelque peu dans la stupidité avec des blagues faciles qui tombent malheureusement à plat la majeure partie du temps. Le scénario simpliste ici est loin d'être original et manque de structure et de rythme, ce qui pourrait ennuyer certains spectateurs. Les deux personnages MP féminins, malheureusement, ne sont pas crédibles et auraient pu être mieux écrits. Le problème ici n'est pas véritablement le travail des deux actrices, mais plutôt de la façon qu'elles sont démontrées. Cela aurait pu nous donner des personnages féminins vraiment plus badass, comme nous en aurons par la suite avec des films comme Terminator et Aliens. Cela aurait permis d'ailleurs également une meilleure évolution des personnages de Murray et Remus, ce qui aurait alors complété admirablement leur transformation de loser en soldat. Finalement, la mission finale est quelque peu décevante. On se serait attendu à quelque chose de mieux du réalisateur et du scénariste qui ne se contente ici que de nous servir quelque chose de totalement banal dans lequel aucun des membres de notre équipe de soldats ne risquera de perdre la vie à aucun moment, perdant ainsi une opportunité de mettre un aspect dramatique et de suspense au long métrage. Du côté de la trame sonore, eh bien, c'est encore une fois le compositeur américain Elmer Bernstein qui a réalisé la musique de Stripes, lui qui avait travaillé sur des films tels que Spies Like Us, Legal Eagle, Cape Fear, la version de 1991 et Birdman of Alcatraz. Je vous fais écouter ici un extrait de la trame sonore de Stripes. Du côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm a coté le film 5. J'y vais également avec une cote 5. Du côté de l'âge et du contenu, la Régie du cinéma a coté le film général. J'y vais également avec une cote pour tous, malgré quelques séquences de langage vulgaire. Du côté du film Stripes, eh bien, Mediafilm a coté le film 5. J'y vais également avec une cote 5. Cependant, un film qui est, je vous dirais, un petit peu en dessous au niveau qualité que Meatballs. Au niveau de l'âge et du contenu, eh bien, la régie du cinéma cote le film 13 ans indicatif. J'y vais également avec un 14 ans, principalement pour des scènes de nudité et un langage vulgaire. Au niveau de la disponibilité des trames sonores, eh bien, du côté de Meatballs, vous avez le vinyle qui a été distribué par les étiquettes RSO en 1980. Et vous avez également la trame sonore en CD qui, elle, a été distribuée par l'étiquette Geek Records en 1980. Du côté de Stripes, eh bien, le film possède deux trames sonores. Vous avez la trame sonore régulière qui, elle, est sortie sous l'étiquette Varese Sarabande le 19 juillet 2005. Et vous avez également Stripes, l'édition 40e anniversaire, qui est limitée à seulement 2000 unités. Cette édition qui a été distribuée par l'étiquette La La Land Records le 28 septembre 2021. Du côté des DVD et du Blu-ray disc, eh bien, Meatballs est disponible en français et en anglais, en DVD ainsi qu'en Blu-ray, alors que le film Stripes, lui, est disponible en français et en anglais, en DVD et en Blu-ray disc également. Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.